Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Erdiwa et Radio Saint-Ferréol.
Bonjour à toutes et à tous, ici Louis pour Erdiwa sur 107.5 FM et www.rdwa.fr. Bienvenue dans Biotope, votre émission qui retrace les initiatives prises par des citoyens, des entreprises, des associations et des institutions pour faire en sorte que cette vallée de la Drôme soit la plus bio possible. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'entretien des espaces verts, sachant que prochainement, en 2020, il y aura une directive européenne, Zéro Phyto, qui interdira d'utiliser des produits phytosanitaires pour l'entretien des espaces verts et de la voirie dans nos villes et campagnes. Avec moi pour parler de ce sujet, Magali Vieux-Melchior, directrice du pôle environnement à la CCVD, au sein duquel se trouve le service entretien et patrimoine, dans lequel officie Jean-Marc Tavan, chef d'équipe du dit service entretien et patrimoine. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Oui, alors c'est passionnant cette histoire de ne plus mettre des produits chimiques dans l'entretien des espaces verts et de la voirie. Peut-être avant de commencer de parler de ce sujet, pourrions-nous définir sur quels espaces géographiques et quel type d'espace vous entreteniez ?
Donc on intervient essentiellement sur les zones d'activité de la communauté de communes, qui sont entre autres donc l'écocite donc qui porte bien son nom et qui est donc situé sur la commune d'Eure. Les zones des crozes, c'est des zones d'activité, donc zone des crozes, c'est une zone d'activité, mais aussi il y a des artisans, des magasins, donc qui est située à l'entrée de l'Oriole. La zone de Champgrand, qui est une zone plus industrielle, enfin semi ou artisanale, qui est située donc aussi sur la commune de L'Oriole, mais enfin, à l'entrée de l'autoroute, on va dire, au péage donc, du dit L'Oriole. Et aussi la zone aussi d'activité de Fiancé, qui elle, par contre, est située sur la commune de Livron. Et donc sur ces zones d'activité, on intervient donc pour l'entretien paysager des espaces verts, donc c'est essentiellement la tonte, la taille. On a commencé ces temps-ci la taille pour l'automne, de tous les arbres, les arbustes, voire des plantations aussi dans quelques temps, au mois de novembre. Et donc aussi l'entretien sur ces zones, essentiellement des allées piétonnes, qu'on entretient sans utiliser justement de produits de désherbants chimiques.
Vous n'entretenez pas tant que ça de routes ?
Ah non, les routes, non, très peu, puisque les voiries appartiennent en général aux communes, membres de la communauté de communes, mais qui, voilà, donc c'est cette partie est leur est, on peut dire, réservée, si on peut dire.
Vous avez une estimation des surfaces dont vous avez à vous occuper ?
Alors nous, si on compte que les allées, si vous voulez, pour l'entretien par rapport aux problèmes phytosanitaires, ça représente presque 2 hectares, 1 hectare et demi à 2 hectares d'allées réparties donc, sur les différentes zones. Et avec la plus grosse partie est quand même sur l'écocite, où il y a rien que là, si on rajoute entre les allées, et puis il y a les zones aussi de parking, en fait, qui sont aussi en gravette, on va dire, en matériaux qui sont perméables, du coup. Oui, ça fait plus d'un hectare rien que sur cette zone-là, 1 hectare, 2 à 3 à peu près.
Et pour ce faire, vous disposez d'une équipe de combien de personnes ?
Alors, on a une équipe donc, de 7 à 8 personnes, mais on n'est pas forcément tous au même endroit, puisqu'il y a pas, il y a des travaux divers et variés. Et disons qu'on dédie 2 à 3 personnes pour faire cet entretien-là, sachant qu'il faut repasser assez souvent quand on utilise des désherbeurs, soit thermiques, soit manuellement aussi, puisqu'il y a par endroits, on fait de l'arrachage à la main, hein, voire des binettes. On appelle ça aussi une petite, qui s'appelle une hilaire. C'est un petit appareil avec une lame plate et qui permet de racler l'herbe.
On reviendra un petit peu plus tard sur vos méthodes. Magali Vieux-Melchior, est-ce que vous pourriez nous faire un petit peu la genèse de ces pratiques vertueuses en matière d'entretien d'espaces verts ?
Oui, tout à fait. La première chose qu'on peut dire, c'est qu'elles sont anciennes. Nous avons, en 1992, sur l'ensemble de la vallée de la Drôme, été le premier territoire expérimental pour la mise en place d'un SAGE, un schéma d'aménagement et de gestion des eaux. À l'occasion donc de l'élaboration de ce document, qui était piloté par la communauté de communes, un ensemble d'études ont été menées, dont des études d'analyse d'eau, qui ont démontré la présence ponctuelle de pesticides. Alors, très légèrement, hein, il n'y a pas de charge importante dans la vallée de la Drôme, que ce soit en rivière ou en nappe, de pesticides, mais n'empêche, il y avait des traces. Ce SAGE a été ensuite déroulé de façon opérationnelle par 2 contrats de rivière, donc ils se sont arrêtés en 2006. À l'occasion de ce contrat de rivière, l'ensemble du bassin versant s'est doté d'équipes d'intervention en rivière. Donc C'était l'occasion d'ailleurs du recrutement de Jean-Marc Tavant qui était chef d'équipe. Et ces agents qui entretenaient les rivières, abattage, tronçonnage, entretenaient aussi pour partie nos espaces verts. Et donc le lien s'est fait là à ce moment-là. On a une problématique potentielle de pesticides dans nos rivières et on a des agents qui sont hyper sensibilisés au bon entretien des rivières et qui par ailleurs entretiennent des espaces intercommunaux, des espaces verts. Donc le lien était relativement facile et la sensibilisation des élus et à l'époque du directeur général a été évidente. Donc cette question des pesticides, elle date de 92-93. Voilà ce qu'on peut dire sur la genèse. Petit à petit, on a essayé de mettre en place des pratiques raisonnées, voilà, à la fois dans la conception de nos zones d'activité, mais aussi dans l'entretien qu'on allait en faire. Ensuite, il y a une question de cohérence. La démarche de développement durable de la CCVD, elle a abouti à une contribution dans le cadre de BioVallée. Donc, ça paraissait naturel de poursuivre cette démarche et à la fois les élus et les personnels encadrants sont dans une démarche de cohérence. On ne peut pas porter des contrats de rivière, porter une politique ambitieuse comme BioVallée et soi-même être, enfin chez soi, utiliser des produits toxiques et générer une pollution. On ne peut pas inciter le développement de l'agriculture biologique, et puis soi-même utiliser des produits qui vont dégrader les ressources en eau, qui elles-mêmes vont permettre l'irrigation de terres agricoles en bio. Voilà, c'est une question d'approche globale et de cohérence.
Vous avez utilisé le terme de conception d'espace. Donc ça veut dire que non seulement il y a des bonnes pratiques, mais aussi il y a une façon de prévoir, par exemple, les bordures de trottoirs ou... Qu'est-ce que ça veut dire, la conception d'espace vert ?
Alors oui, il y a une façon de concevoir les zones d'activité dans les types de matériaux qu'on va utiliser, notamment pour les allées piétonnes. Pour les voiries, ça reste de l'enrobé. Il y a d'autres solutions, mais qui ne sont pas à notre portée financière aujourd'hui. Il y a une façon de concevoir les trottoirs aussi, en sablettes, comme l'a dit Jean-Marc tout à l'heure, mais ces sablettes qui sont, d'un point de vue hydraulique, perméables, donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour la gestion de la ressource en eau. Par contre, ça génère énormément de petites pousses d'herbe. Bon, donc, on va mettre de la sablette parce que d'un point de vue environnemental, c'est intéressant. En revanche, d'un point de vue entretien, il va falloir dédier du temps, dédier des agents. Et puis le deuxième point, c'est par exemple la mise en place d'écorces. Ces écorces, elles ont pour vocation d'éviter l'arrosage. Donc on est bien dans une logique environnementale d'économie de la ressource en eau. Par contre, on ne peut pas les désherber au désherbeur thermique, à flamme. Là, donc, c'est une négociation à avoir, je dirais, entre le pôle qui construit et le pôle qui entretient. Alors il y a des liens qui sont très très fréquents et on arrive à trouver des consensus. Voilà, dans la conception, c'est également s'accorder avec l'architecte qui va réfléchir sur les espaces verts à la primeur et je dirais même l'exclusivité des plantes méditerranéennes et des cortèges floristiques qui permettent de faire, pas de la lutte biologique, mais des plantes qui s'accordent, qui entre elles ont une harmonie et ne génèrent pas de maladies. C'est l'idée.
Alors, Monsieur Tavant, vous avez été associé à plusieurs reprises à la conception d'espaces verts. Vous avez dit non, plutôt de la gravette plutôt qu'autre chose ou...
Oui, tout à fait, oui. Et puis, c'est surtout par rapport aux essences, arbres et arbustes, qui aussi, que disait tout à l'heure Magali, sont des essences donc généralement méditerranéennes et qui donc n'ont pas besoin de beaucoup d'eau. Donc, c'est toujours dans le même état d'esprit, quoi, pour préserver la ressource.
Donc on vous consultait.
Oui, tout à fait.
Comme vous dites, une
complémentarité.
Enfin, voilà,
oui.
Tout à fait, oui.
Alors on a eu des loupés, hein, oui, on ne va pas dire non plus qu'on a toujours été très très bon avec une transversalité optimum. Il y a eu des loupés.
Oui. Bah, voilà. C'est comme dans la vie normale.
Comme dans tout.
C'est pas du 100% efficace, mais voilà, donc on essaye de faire le maximum pour que ça aille dans ce sens.
Et alors, au fur et à mesure du temps, vous avez dit que vous avez commencé en 1992, ça fait quand même 22 ans, si je ne m'abuse.
Oui.
Depuis le temps, vous avez amélioré vos méthodes. Est-ce qu'il y a une véritable connaissance, une expertise en la matière qui s'est créée ici même ?
Alors, je vais donner mon point de vue de gestionnaire de service. Je pense que ce ne sont pas nos méthodes qui se sont affinées. Très tôt, les agents mis en place qu'il fallait. Jean-Marc a défini, je dirais pas un plan de désenherbage, mais très tôt une gestion différenciée des espaces. C'est davantage la tolérance des usagers des sites qu'on entretient qui s'est accrue. Et ça, c'est un travail important. Je prends par exemple le parc des Crozes, où c'est une zone commerciale, où il y a une exigence finalement que l'herbe soit tondue très rase, très régulièrement, et qu'il n'y ait pas un brin d'herbe qui dépasse. Ça n'est pas du développement durable, de tondre et d'avoir une pelouse. Non, on n'a pas un golf. Petit à petit, on a aussi habitué la population à, je dirais, être moins exigeant. Si de l'herbe dépasse sur les trottoirs, c'est pas un drame, ça n'est pas de la négligence d'entretien, c'est une question d'habitude aussi. Et ça, en 22 ans, quand même, on a vu, notamment au travers de la réaction de nos élus, évoluer leur position, avec une plus grande tolérance. Lorsqu'on leur démontre qu'on a des cortèges floristiques qui sont synonymes de biodiversité, et que du coup, il faut pas tondre tout le temps, mais avoir une tonte raisonnée, avec une fréquence quand même évidemment adaptée, puisqu'on nous oppose toujours, il y a des serpents, il y a des hautes herbes. Bon, effectivement, mais il peut y avoir des soucis, mais enfin, on n'en est pas là quand même sur Parc des Crozes. Voilà, je crois que c'est vraiment les usagers qui ont évolué. Les agents, eux, dès le départ, savaient ce qu'il fallait faire. Il faut bien comprendre que l'équipe qui s'occupe de la gestion des espaces verts, c'est une équipe qui a travaillé pendant 20 ans en rivière. Et donc, ils sont des amoureux de la nature. Hein, je crois que c'est quand même là-dessus que ça repose au départ, sur des gens qui avaient envie de bien faire et qui sont conscients que des pesticides, c'est mauvais à la fois pour la nature, mais à la fois pour leur santé aussi. Et je me réjouis qu'il y ait une directive pesticides en 2020 pour toutes les collectivités. On sera prêts.
Et alors, justement, au point de vue des méthodes, vous n'avez pas eu de surprise, enfin je veux dire, par rapport au fait de travailler avec des désherbants et des pesticides, quelles sont les différences de fonctionnement? Faut-il plus de personnel? On remplace des pesticides par quoi?
Donc il faut un minimum de matériel. Il existe plusieurs systèmes pour désherber. Donc il y a des désherbeurs thermiques qu'on appelle. Donc là c'est un désherbeur souvent à gaz, ou ça peut exister électrique aussi, donc avec une flamme. Donc cette flamme, on passe la flamme sur les allées, donc comme on disait tout à l'heure, en gravette. Ces flammes donc dessèchent les plantes. Il faut y avoir une certaine technique. En fait, il ne faut pas rester sur la plante, la brûler, la carboniser, ça ne sert à rien. Parce qu'au contraire, les cellules se ferment complètement. Et du coup, la plante repousse quand même. En fait, elle se protège. Sur le moment, on a l'impression qu'on a cramé, entre guillemets, la plante, mais ce n'est pas forcément efficace plus que ça. Donc, il y a ce système-là. Il y a, bon, évidemment, le classique des classiques, c'est la pioche, la binette, enfin, voilà, tous ces engins-là, qui sont évidemment assez difficiles à utiliser, c'est bénible, mais ça existe. Hein. Après, voilà, il faut, donc, on imagine bien qu'il faut du temps, même pour le désherbeur thermique, de toute façon. Après, il y a d'autres systèmes, donc, comme Magali disait tout à l'heure, il y a les désherbeurs à eau chaude. On a fait certains essais. Après, bon, il y a des problèmes de coûts aussi, de matériel. Ça fonctionne aussi relativement bien. Il y a aussi les désherbeurs à infrarouge. C'est une plaque, en fait, qui est chauffée aussi. Et donc, il n'y a pas de flamme directe. Donc, il y a moins de risques aussi. Notre problème aussi dans notre région, par exemple, c'est l'été avec un désherbeur thermique. Ça peut être dangereux parce qu'il y a des herbes sèches, même les pelouses. Donc, comme on arrose très peu, forcément, il y a de l'herbe sèche. Et donc, il y a des risques un petit peu d'éventuels d'incendie ou des choses comme ça. Par contre, avec ce système-là, comme il n'y a pas de flamme directe, ça chauffe simplement, il y a beaucoup moins de risques. Mais dans tous ces systèmes-là, il faut avoir conscience, c'est ce que disait tout à l'heure Magali, qu'il faut du personnel. Et il y a quand même, il faut repasser assez souvent. Si on revient au désherbage chimique, si on utilise un désherbage chimique, on passe deux ou trois fois dans l'année éventuellement. Alors qu'un désherbeur thermique, pour en venir à ça, c'est un minimum de 6-7, en fonction des années, bien sûr. Cette année 2014, qui est très humide, il faut passer pratiquement toutes les 3-4 semaines. Donc forcément, entre le mois de mai et le mois de septembre-octobre, ça fait 7-8 passages pratiquement. Et donc, le personnel qui va avec, donc ça demande du temps, etc. etc. Mais... voilà, on n'a rien sans rien, on va dire.
C'est-à-dire combien de personnes en plus vous estimez?
Par exemple, pour en venir, je ne sais pas, à l'écosite, donc où il y a 8000 m² en gros d'allées piétonnes, on passe toutes les 4 semaines, il faut 2 personnes pendant 4 jours. Donc ça fait du monde, quoi.
Oui, et si vous comparez avec une technique.
Sinon, on passerait sur 8000 m², ça peut se faire dans une journée avec une personne. Et 3 fois dans l'année, donc...
C'est ça. On chiffre quand même, en équivalent temps plein, voilà. À une personne, un poste complet. Un poste chargé, c'est 40 000 euros hein, pour la collectivité. Sachant que évidemment, on a aussi cette question de gestion de la saisonnalité. Hein, l'usage, l'entretien des espaces verts, c'est essentiellement, comme l'a dit Jean-Marc, début mai, fin octobre maximum. Donc on doit avoir les moyens humains, à ce moment-là, de bosser. Donc soit on a des titulaires sur toute l'année, soit on prend du renfort estival. Voilà. Mais le surcoût, c'est bien un poste. Hein. Sur les 8 postes qu'on a, c'est un huitième.
Et peut-être que vous faites des économies sur les produits chimiques, puisque vous n'en utilisez plus.
Alors oui, on fait des économies, mais elles ne sont pas à mettre en parallèle. Par contre, la vraie économie, c'est l'économie de la santé des agents et de l'ensemble de la population. Parce que exposer ses propres agents avec des pulvérisateurs, aux herbicides, on ne peut plus. Voilà, nous, en tant que gestionnaires et les élus en tant qu'employeurs, on ne peut plus faire ça. Même si la loi a évolué et que la moitié des pesticides ont été interdits pour ne plus autoriser que ceux qui sont considérés comme étant les moins toxiques, on sait tous que c'est la polyexposition à tout un tas de
pollution,
oui, d'éléments chimiques qui créent des maladies. C'est pas une exposition à un pesticide, c'est la somme de tout ce qu'on respire, de tout ce qu'on inhale qui nous rend malade. Donc nous, en tant qu'employeurs, si on peut déjà éviter cette exposition, en tout cas ce risque-là à nos agents, on le fait. Et après, Jean-Marc a dit quelque chose d'intéressant, c'est le risque d'incendie, quand même de départ de feu, quand on utilise des désherbeurs thermiques à gaz. On a eu, je ne dis pas régulièrement, mais ça nous arrive quand même, d'avoir des petits départs de feu. Donc c'est une technique alternative qui n'est pas sans danger non plus. Après, c'est mesuré, ils travaillent toujours à deux, les agents, pour que l'un surveille l'autre, qu'il n'y ait pas de souci, qu'on voit si, après son passage, il y a une petite brindille qui prend feu et puis qui déclenche début, alors il ne faut pas appeler ça un incendie, mais un tout petit départ de feu en bordure.
Ce seraient des feux qui seraient nés suite à votre passage ou ce qui serait né suite au fait qu'il y a plus de nature ?
Qui sont bien nés suite à notre passage. Quand on met des cloches avec une flamme pour mettre un coup de chaud à la plante, bon, bah, elle peut légèrement prendre feu, la brindille peut partir et puis c'est le début de la pelouse qui part. Mais c'est rare, mais il faut en avoir conscience. Ça veut dire aussi qu'il faut être tout à fait bien équipé pour la lutte contre un départ de feu. Extincteur, couverture de survie et le fourgon à proximité. C'est aussi... Et bien tout ça, il faut le penser et l'organiser sur un chantier sur lequel arrivent les agents. Donc il n'y a pas que je pars avec mon désherbeur thermique et je laisse mon pulvérisateur et plus de pesticides.
Ça veut dire que vous êtes toujours à deux sur un chantier ici.
Au minimum, oui, bien sûr.
Toujours.
Oui, c'est un minimum de personnes pour tous ces problèmes de sécurité. Et puis il y a aussi par rapport aux usagers aussi, puisqu'il y a des piétons qui passent, il y a tout ça. Donc il y a aussi un balisage du chantier, il y a toute une notion un petit peu de sécurité à avoir.
Et quant aux machines dont vous m'avez parlé, c'est des grosses machines qui...
Non, enfin ça existe, hein, tout à fait. C'est à ce moment-là, derrière des micro-tracteurs, puisque de toute façon, les allées en gravette, comme on disait, c'est des allées qui feront 2 mètres, 2 mètres 50 maximum de large, donc on ne peut pas utiliser de gros engins. En plus, il y a ce que je viens de dire aussi, il y a des piétons, surtout dans la zone des crosses, par exemple, c'est une zone commerciale, donc ça circule dans tous les sens. Donc on peut pas, il faut faire très attention. Et non, là, c'est des petits engins qu'on tire à la main, en fait, qui sont certains engins aussi qui sont auto-tractés, si vous voulez, mais après, nous, on n'en possède pas pour actuellement. Voilà, mais c'est des petits engins qui font 1 mètre, 1,50 mètre de large maximum, quoi, et qui sont portables, on va dire. Il existe même des petits, on a un petit désherbeur thermique qui est avec un système de sac à dos aussi, qui peut être intéressant, pas forcément sur deux zones à nous, mais... Qu'on arrive aussi à mutualiser dans les communes, qui peuvent être intéressants pour désherber, par exemple, dans des vieux villages, des calades qu'on appelle, vous savez, où il y a des escaliers. Donc monter, c'est pas facile, alors que si on a un petit engin sur un sac à dos, ben voilà, ça demande moins de peine et c'est aussi intéressant.
Alors, monsieur Tavant, en parlant de votre matériel, est-ce que c'est un gros investissement ? Est-ce que c'est des grosses machines compliquées ?
Non, le matériel qu'on a actuellement, non. C'est entre 1 500, 2 000 euros la machine, à peu près. Donc, c'est pas des sommes énormes, on va dire. Mais c'est vrai qu'il existe, par ailleurs, des machines beaucoup plus importantes. Ou, comme on disait tout à l'heure, par exemple, une centrale à eau chaude. Là, c'est 10 à 12 000, je pense, à peu près. Voilà, après il existe tout type de matériel, ou ce qu'on disait tout à l'heure aussi d'un micro-tracteur par exemple avec un désherbeur qui soit sur une rampe derrière le tracteur pour faire des espaces encore plus grands. Là c'est pareil, c'est entre 10 à 15 000 euros. Donc il y a, après il y a, Tout existe en fait, hein, mais nous, notre matériel à nous, pour l'instant, on n'a pas c'est pas des sommes pharaoniques, disons.
Donc ça ne grève pas le budget de la CCVD.
En charge de personnel, ça a un impact.
Oui, après,
voilà, en investissement beaucoup moins, mais en fonctionnement aussi, ça a un impact. Un impact qui est tout à fait assumé par les élus qui votent les budgets.
Et tout ce matériel est au point techniquement. Il y a encore de l'innovation quand même ou...
Je pense, et puis il y en aura sûrement encore, parce que c'est quand même des techniques relativement nouvelles. Donc je pense que oui, ça va forcément s'améliorer aussi, puisqu'il y a de plus en plus aussi, par rapport justement à la nouvelle loi, des demandes qui vont se créer, des choses comme ça. Donc forcément, ça va évoluer, ça peut qu'évoluer.
Donc vous avez une cellule de veille technologique pour regarder dans les salons.
Cellule, c'est peut-être un bien grand mot, mais disons voilà, on s'intéresse. On s'intéresse tout à fait et on essaye, comme je vous disais tout à l'heure, on fait des essais avec des machines pour voir laquelle serait la mieux adaptée en fonction de nos besoins, voire en fonction aussi des petites communes, comme on disait tout à l'heure, qui pourraient être justement mutualisées, puisque aussi l'intérêt de la communauté de communes, c'est d'essayer de mutualiser au maximum le matériel, de façon à ce que ça revienne moins cher, puisque le matériel est utilisé plus longtemps dans l'année. Et quelque part, c'est plus intéressant pour tout le monde, quoi. Et pour les habitants du coup, puisque quelque part, c'est les impôts de chacun qu'on retrouve dans le matériel. Donc si on peut économiser aussi, c'est pas mal.
Alors peut-être pour les communes qui nous écouteraient et qui auraient envie d'investir dans du matériel, l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse finance à hauteur de 50% l'acquisition de matériel de type désherbeur qui permettent donc une pratique alternative aux pesticides. Voilà.
Et y a-t-il des subventions dédiées qui pourraient aussi accompagner les communes qui ont envie de passer le pas, peut-être ?
Alors, à ma connaissance, il y a l'Agence de l'eau, absolument, dans son programme, et c'est 50% sur l'investissement. Et par ailleurs, l'Agence de l'eau accompagne au niveau de l'animation les communes qui souhaitent faire des gestions différenciées de leurs espaces. Ensuite, cette gestion différenciée permet de définir des moyens matériels nécessaires et l'Agence finance également ces moyens. Donc, accompagnement sur un audit et accompagnement sur des investissements. Quelle que soit la taille de la commune, c'est important.
L'utilisation de ces matériels demande une formation spécifique ?
Oui, enfin disons que ça demande une formation et une technicité aussi. Une habitude, voilà, comme je disais tout à l'heure, par exemple, surtout avec le désherbeur thermique, donc il y a ces problèmes d'incendie déjà, et puis il y a le fait de ne pas rester très longtemps sur la plante, disons que ça n'a pas d'intérêt. Donc ça, c'est, voilà, c'est, on a été un petit peu formé par les personnes qui vendent aussi le matériel, ils font... petite formation, on va dire, au départ. Et après, c'est aussi une habitude, en fait. On voit bien que, puisqu'on est obligé de repasser, que si on repasse, si on brûle trop, ça n'a pas d'intérêt, puisqu'on repasse, on est quand même obligé de passer à Paris. Si ce n'est qu'on passe plus de temps, et donc on dépense plus de gaz, à la limite, et ça, voilà. Donc c'est pas intéressant. Et c'est, voilà, c'est au fil de l'utilisation qu'on se rend compte qu'on améliore la technique.
Madame Vieux-Melchior, est-ce que d'aventure, le fait que vous ayez commencé si tôt, alors que personne ne vous l'obligeait, est-ce que ça a suscité dans d'autres collectivités des émules ?
Alors certainement. Est-ce que c'est l'exemplarité de la communauté de communes ? Pas nécessairement. Il y a des élus communaux au sein des 30 communes de la CCVD qui sont tout à fait conscients de cet enjeu de pesticides et qui ont démarré des initiatives. Après, ils ont des moyens qui sont bien moindres que les nôtres. Et je cite pour exemple quand même la commune de Soux, celle de Soyons et de Francillon, qui ont... aujourd'hui, nous avons une équipe technique mutualisée, donc qui est communauté de communes, mais qui travaille en tant que service technique sur ces trois communes-là, pardon, et qui a un regard bienveillant sur des pratiques alternatives, c'est-à-dire sur la diffusion en commune, sur les voiries communales, sur les espaces communaux, de désherbage thermique et non plus aux herbicides. Voilà ce que je peux dire. C'est pas 100%, mais c'est un grand pas qui est franchi avec des élus qui jouent le jeu quand même. Ça, c'est important, le rôle des élus.
Dernière petite question avant de vous remercier. Vous n'avez aucun regret. Vous conseilleriez à n'importe quelle communauté de communes ou à n'importe quelle commune de se lancer dans cette aventure ?
Tout à fait. Aucun regret. Et je pense qu'en plus, en termes de cohérence, si toutes les communes pouvaient le faire... l'action de la communauté de communes ne serait que juste la cerise sur le gâteau. Après, c'est pas facile. Il va falloir travailler sur l'organisation des services, mobiliser des fonds. Mais de toute façon, il reste 6 ans aux collectivités pour se structurer, pour faire face à ce défi-là. Il y a une interdiction absolue en 2020. Donc il faudra qu'elles se tiennent prêtes. Et si besoin, on est là pour les accompagner... dans l'échange.
Il y a aussi l'évolution des mentalités, aussi des usagers, et tout ça, comme tu disais tout à l'heure, je veux dire, s'il y a un bout d'herbe qui dépasse, c'est pas forcément dramatique, quoi. Alors qu'à une époque, c'est vrai qu'il fallait que ce soit un nickel chrome, comme on dit vulgairement, quoi. Mais voilà, donc ça, petit à petit, ça évolue
ça,
et
ça
peut aller que dans le bon sens par rapport à d'autres problématiques.
Très bien, mais Monsieur Tavant et Madame Vieux-Melchior, merci beaucoup de toutes ces informations.
Merci
à vous.
Et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Capsule.
Un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Capsule. Pour complémenter ce sujet sur l'expérience de la CCVD en matière d'entretien de voiries et d'espaces verts sans pesticides, nous allons interviewer Monsieur Hugues Sarcy, responsable de l'équipe technique intercommunale de Sous-Soyans-Francillon, car la CCVD, la communauté de communes du Val-de-Drôme, a procédé à une expérience intéressante de mutualisation de moyens humains et matériels pour gérer ces fameux espaces verts et les voiries. Monsieur Hugues Sarcy, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui s'est fait en matière de gestion d'espaces verts sans pesticides ?
Oui, tout à fait. Donc nous sommes mis à disposition par la communauté de communes du Val-de-Drôme pour des communes, aussi bien au niveau humain qu'au niveau matériel. C'est une convention de mise à disposition qui est faite entre la CCVD et les communes.
En matière d'entretien d'espaces verts, il était relativement facile de continuer à appliquer les méthodes de la CCVD.
Tout à fait. Donc on a fait avec les communes, nous avons travaillé pour avoir zéro phyto sur l'entretien des espaces verts et des voiries sur les communes.
Donc vous avez été formé par l'équipe de Monsieur Tavant peut-être ?
Je fais partie de l'équipe de Monsieur Tavant. Je suis détaché pour les communes de Sous-Soyans et Francillon. Et nous travaillons ensemble pour essayer de trouver des solutions palliatives, des solutions annexes pour l'entretien des espaces verts sans utiliser de produits phytosanitaires.
Est-ce que vous pourriez nous parler des points de blocage et des difficultés éventuelles que vous pouvez rencontrer dans l'entretien de ces espaces verts sans phyto ?
Oui, tout à fait. En ce qui concerne les points de blocage, c'est surtout une question de temps et de coût. Parce que c'est vrai que c'était la facilité d'appliquer des pesticides ou des désherbants, surtout du désherbant, en fait on utilisait très peu de pesticides, mais d'appliquer du désherbant, et donc il a fallu trouver d'autres solutions qui pour l'instant nous prennent beaucoup plus de temps et un petit peu plus de moyens. Ce sont souvent des techniques manuelles. Techniques manuelles de binage, d'arrachage ou de brûleur thermique pour lutter contre des plantes envahissantes.
Avez-vous une idée de l'appréciation par ces communes de cette expérience de mutualisation de moyens techniques et humains ?
Les communes nous soutiennent et sont à l'écoute des difficultés qu'on peut rencontrer par rapport à la facilité qu'on avait avant à utiliser des produits phyto, et se rendent compte qu'on a besoin de plus de temps pour essayer d'avoir le même résultat, mais aussi on travaille sur l'éducation, je dirais, ou sur l'information plutôt. On travaille sur l'information pour qu'on regarde aussi notre environnement d'un œil peut-être un peu différent qu'on le regardait avant.
Si d'aventure des personnes étaient intéressées pour reproduire cette expérience, est-ce que vous pourriez livrer des coordonnées ?
Ah bien sûr, vous pouvez contacter Monsieur Jean-Marc Tavant à la CCVD ou Magali Vieux-Melchior, qui est la directrice du pôle environnement, qui pourront vous aiguiller pour qu'on puisse partager ces informations.
Eh bien, Monsieur Sarcy, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée.
Je vous en prie, merci à vous, au revoir.
Merci, au revoir.
Biotope, un regard sur la construction d'un éco-territoire.
Une émission coproduite par Air Diwa et Radio Saint-Ferréol.